Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans le creux des mains d'Anicette, une mésange bleue. Ses mains, un prodige, des mains qui indiqueraient l'avenir. Mais Anicette ne voit pas ce que ses mains ont d'amoral. La suite, bonne nouvelle, grand comédien, Jean Le Poulain était invité par Patrice Galbaud le 24 juillet 1970 à nous faire découvrir l'avenir d'Anicette après celui de ses parents.
Patrice Galbaud m'a demandé de choisir une nouvelle et j'ai choisi une nouvelle de René Barjavel qui est un ami d'autant plus sûr et d'autant plus certain que c'est lui qui, pour la première fois, m'a conseillé de monter un spectacle qui s'appelait Barbas, qui a été mon premier spectacle. Je devais monter alors Le Voyageur Imprudent, une adaptation théâtrale d'un de ses romans. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir dire un de ses contes qui s'appelle Les Mains d'Anicette. Le pouvoir miraculeux des mains d'Anicette se révéla dans la cour de l'école. Anicette avait quitté depuis 3 semaines l'âge des petites filles pour celui des fillettes. Dans son corps en métamorphose, son cœur demeurait pur comme une goutte de rosée. À l'école de la rue Courte, elle commençait pour la 3e fois la classe du certificat. Pendant les dictées, elle suivait le vol des mouches et perdait les compléments. Devant un problème, elle hochait sa tête blonde, suçait le manche de son porte-plume, bâillait, et le retrouvait d'aise qui a décidé sur sa page une foule de chiffres 8. Elle aimait ce chiffre. Pour le tracer, les doigts décrivent une molle arabesque, un mouvement qui commence on ne sait pas où et ne se termine jamais. Madame Passepas Petit Pas, sa maîtresse, venait de quitter cet âge où abordait Anicette. La barbe commençait de lui percer la peau et sa voix se fêlait, tombée de l'aigu au grave au milieu des mots. Sa sévérité s'était découragée devant l'innocence de la fillette. Tu me copieras 100 fois, la paresse est la mère de tous les vices. Elle ne put jamais obtenir ses 100 lignes, pas même 20. Ce n'était de la part d'Anicette ni paresse ni obstination, mais incapacité de s'efforcer à un travail triste. Elle aimait se trouver au piquet, les mains dans le dos, le nez au mur. Le mur était son ami. Elle le regardait de si près que ses yeux devenaient loupes, grossissaient en montagne les grains de la peinture verte. Une éraflure devenait ruisseau, les traces d'un coup de pinceau, troupeau de moutons dans la prairie. Ici, c'était le visage d'une fée, ourlée de poussière délicate. Là, une grosse vache à côté d'une marguerite. Bientôt, un bourdonnement troublait le silence de la classe. Anicette, courant dans l'herbe verte au milieu des moutons, chantait. L'institutrice prit le parti de la laisser en paix. La fillette n'était pas de ces mauvais élèves qui abrègent la vie des maîtresses. Elle ne causait point de désordre. Quand Madame Passepas Petit Pas l'interpellait, elle avait vers elle, sans crainte ni effronterie, son sourire doux comme l'aurore. Ses yeux bleus ne cachaient rien. Ses lèvres ne grimaçaient jamais autour d'un mot de colère ou de mensonge. Même les filles hargneuses l'aimaient. Les 4 classes en récréation emplissaient la cour d'une tempête de cris pointus. Anicette, le dos appuyé au tronc de l'acacia, regardait devant elle, sans voir grand-chose, et fredonnait à bouche close la chanson du frelon. Dans les fleurs de l'arbre, les abeilles se chargeaient de butin. Une chipie, grinçante, poing fermé, renversa la petite Odette qui n'avait pas 8 ans et s'enfuit à cloche-pied en chantant « C'est bien fait, c'est bien fait, Les serpents noirs de ses tresses lui dansaient dans le dos. La petite Odette, au pied de l'acacia, hurlait. Anicette la ramassa, essuya de son mouchoir sale les yeux et les joues barbouillées, moucha le nez, baisa les lèvres tremblantes. Ses gestes étaient doux et la paix coulait d'elle comme un parfum. La victime déjà souriait quand elle aperçut du sang sur son genou. La peur lui revint d'un seul coup. Elle essaya de l'enfermer dans sa bouche, mais le chagrin sortit de ses lèvres en une grosse bulle et éclata. Anicette prit la petite fille dans ses bras, la porta jusqu'à la fontaine, baigna l'écorchure minuscule et dans la coupe de ses deux mains offrit à boire à l'enfant. Odette hoquetait. Elle se pencha et ce qu'elle vit alors lui fit oublier son chagrin. Dans le creux des mains d'Anicette s'ébattait une mésange bleue, noisette d'azur et de jade. Elle tournait la tête à droite, à gauche, pour regarder la petite fille d'un œil, puis de l'autre. Odette la reconnaissait. C'était la même qui mangeait tous les matins de son bec fin comme une aiguille les miettes invisibles laissées par les gros moineaux sur le bord de la fenêtre de sa chambre. Elle s'enfuyait à la moindre approche et jamais Odette n'avait pu la voir de près. Elle rêvait de l'apprivoiser. Elle lui disait de loin, tout bas, des mots gentils, lui envoyait des baisers. Elle aurait voulu lui caresser délicatement la tête et le dos avec son plus petit doigt. C'était bien un miracle qui fut là, dans les mains de son ami, ce feu follet de plumes. Mais les miracles n'étonnent que les grandes personnes. Odette voulut prendre la mésange. Ses doigts trempèrent dans l'eau, la vision disparut. Quand elle les retira, l'image revint. « Comme c'est beau, ce petit oiseau dans tes mains, » dit-elle. « Quel oiseau ?» demanda Anicette. Elle ne voyait qu'un peu d'eau qui reflétait le ciel et les fleurs de l'acacia et qui s'écoulaient goutte à goutte entre ses doigts. Odette appela les filles en témoignage. « Venez voir, » dit-elle, « venez voir ce qu'on voit dans les mains d'Anicette. C'est un oiseau, je le connais, j'y donne à manger tous les jours. »«
C'est pas vrai, c'est pas un oiseau, c'est un baba, » fit d'une voix émerveillée la pauvre Adèle qui passait 4 fois par jour devant la pâtisserie et n'y entrait jamais.
« Moi, je vois une poupée avec des vrais yeux et une chemise en dentelle. Moi, un collier de perles rouges. Moi, je m'y vois dans un taxi. Et moi, au cinéma. » C'était autour d'Anicette une bousculade de robes couleur mangée par les lessives, de blouses noires rapiécées, de têtes bouclées et de têtes lisses. La chipie aux tresses brunes se tailla une place à coups de coude et de pinceau. Elle regarda aussi, devint écarlate et se retira sans dire mot. Elle n'avait pas de frère. Elle ne savait pas comment s'est fait un homme. Cette ignorance la rongeait. Elle s'était vue dans le miroir d'eau ouvrant la culotte de M. Rour, le boulanger, qui a une grande barbe et des yeux rouges, et qui trouve toujours moyen, quand elle va chercher le lait, de passer une main sur ses fesses déjà rondes ou ses bouts de seins pointus. Une autre grande n'a rien dit non plus. C'est elle qu'on nomme Pie, parce qu'elle est toute blanche ou des cheveux bleus. Elle ne dit rien, elle ne peut pas nommer ce qu'elle a vu. C'est beau, c'est brillant, ça n'a pas de forme, et c'est comme de la musique qui coule en 1000 couleurs, comme un ruisseau de pierre de lumière. C'est ce qu'on voit dans les cavernes secrètes des contes de fées, ou bien encore au paradis, et quand on rêve qu'on est heureux comme le soleil. Anicette, souriante, tendait ses mains aux fillettes, leur montrait dans le miroir de ses mains, innocentes, l'image de leur désir. L'attroupement attira l'attention des maîtresses qui discutaient sous le préau. « Moi, j'aime mieux les gauloises bleues. Les cigarettes blondes, c'est bon pour les cocottes. Je vous demande pardon, ma chère, chacun ses goûts. Les ischlifs, c'est plus distingué. » Madame Passepas, petit pas, mit son tricot sous son bras et frappa dans ses mains.
« Allons, allons, qu'y a-t-il? Allons, allons, mais allons, dispersez-vous, allez jouer. Oh, madame, venez voir. Venez voir comme c'est si beau. C'est un oiseau, c'est un gâteau, c'est un chapeau, c'est un manteau, c'est un gigot, c'est une auto, c'est les mains d'Anicette. »
Et Madame Passepas, petit pas, bouleversée, vit dans les dernières gouttes d'eau une maison de campagne à volets verts et vignes vierges, avec un jardin de roses et de laitues, des lapins qui remuaient leur nez derrière un grillage et un chien barbu, tout
tout fou, qui sautait après les papillons. Mon Dieu, mais c'est le cottage de ma retraite.
Elle économisait pour lui depuis 32 ans. Elle était si persuadée de le posséder un jour qu'elle commit une erreur. Elle prit ce reflet de son désir qui tremblait au creux des mains frêles pour une image des temps futurs.
Tes mains, dit-elle à voix haute. Ma petite Anicette, mais c'est un prodige. Tes mains montrent l'avenir.
Cette phrase devait provoquer bien des catastrophes. Ne faut-il pas que les prédictions se réalisent? Le soir même, la chipie se laissa pousser, les dents claquantes dans l'arrière-boutique du boulanger. La maigre, qui fut 15 jours sans voir venir le gigot promis, le vola. Son père l'abattit et mangea la viande. Adèle, la pauvre gourmande, restait des heures, le nez écrasé sur la vitre du pâtissier, à 2 centimètres du baba. Un passant pris de pitié, la fit entrer, tendit un billet à la vendeuse. 12 gâteaux arrondirent le ventre de la mignonne. C'était un ventre nourri d'eau claire, des tripes minces comme des spaghettis et un estomac transparent derrière un nombril en verrue. Cette abondance de nourriture boucha tous les conduits. La pauvrette en mourut dans les 3 jours. Son père, à manœuvre, sa mère, qui faisait des ménages, se plaignirent de la moquerie du sort. Ils se fussent mieux résignés à voir leur fille périr d'anémie. Les économies de Madame Passepas Petit Pois ne suffiraient pas à l'achat du pavillon entrevu. Elle devait lui rogner 1 étage et 100 mètres de jardin. Désormais assurée d'une heureuse issue, elle vendit ses fonds, engagea tout le produit du marché dans une spéculation boursière. Elle en retira juste de quoi se payer le collier du chien. Elle n'osa pas accuser Anicette, mais lui manifesta dès lors une hostilité qui vint s'ajouter aux reproches des filles déçues. Toute l'école détesta la fillette. Anicette, qui n'avait rien vu d'anormal dans ses mains, ne comprenait pas ses reproches et ne s'en souciait pas. Le chagrin ravageait l'institutrice. Ses cheveux glissaient entre les épingles et lui tombaient en mèches grises le long de ses joues. Sa barbe se mit à friser. Sa voix atteignit des notes de la contrebasse. Elle en vint à ne pouvoir supporter la vue d'Anicette et la mit à la porte. Pour justifier sa décision, elle écrivit aux parents de l'enfant 4 pages d'écriture penchée. Les parents d'Anicette, M. et Mme Jean Blou, tenaient un café bougnat au fond de l'impasse des Bœufs. Le jour durant, M. Jean Blou livrait des sacs de charbon sur une voiture à bras. Il la pliait le soir comme un accordéon pour la garer dans le couloir qui constituait l'essentiel de son entrepôt. Anicette ne connaissait de lui que ses yeux blancs et sa langue rouge quand il ouvrait la bouche pour manger. Il parlait peu. Sa femme, plus grande que lui, parlait pour deux. Elle le connut un dimanche où il s'était lavé et l'épousa pour ses 4 sous, tandis que lui ne pensait qu'à les multiplier avant de retourner avec sa famille à Brioude qu'il avait vu naître. Elle lisait des romans. Il s'acharnait au travail, même les jours de fête. Entre 2 livraisons, il liait des margotins et des résinés. Elle lui avait dressé un lit à part avec des draps de lustrine noire. Il y ronflait tôt, se levant avant l'aube. Elle descendait au café vers 10 heures, disait « Monsieur » à tous les clients, même à Jules, le clochard, qui venait manger ses rogatons à la table fendue. L'un et l'autre ne pensaient à leur fille que lorsqu'elle se trouvait là. Encore l'oubliait-il souvent quand Anicette s'oubliait elle-même jusqu'à ne plus faire le bruit de sa respiration. Elle rentrait de l'école, s'asseyait dans le coin le plus sombre, entre le bout du comptoir et le mur. Elle regardait les buveurs qui ne la voyaient pas. Le sidi rejetait en arrière sa casquette sale. Elle le coiffait d'une couronne d'or, le drapait dans un manteau rouge avec des gants blancs jusqu'aux coudes. La chaise devenait cheval. D'autres cavaliers, une multitude, se pressaient autour du roi, brandissaient des lances et des bannières. Le peuple criait de joie. 1000 cloches sonnaient. Les locataires jetaient des sous par les fenêtres, des avions emplissaient le ciel et laissaient tomber des confettis, des rubans et des pétales de fleurs. « Fais voir tes mains, lui dit sa mère, après avoir lu la lettre. Elle ne vit que des taches d'encre. « Tu ne pourrais pas te nettoyer les ongles, cochonne. On dirait ce de ton père. Je me demande ce que c'est que cette histoire de montrer l'avenir. Que tu as pu faire à l'école. Réponds-moi. Descends un peu de la lune. »
« J'ai fait comme ça, dit Anicette.
Elle prit dans le creux de ses mains un peu de l'eau où trempaient les vers sales et l'étendit à sa mère. Tu vois bien qu'il n'y a rien, reprit l'enfant. Madame Jean Blou, les yeux fixés sur les mains de sa fille, tremblait et claquait des dents.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? demanda le balayeur qui buvait un petit blanc au comptoir.
La goutte devenait verte.
C'est rien. Ah, oh, c'est rien. Put-elle enfin répondre.
J'avais chaud.
Jette cette eau, cria-t-elle à sa fille.
Va jouer, ma chérie, va jouer. Elle se versa un verre d'arquebuse, se retira dans son arrière-boutique et s'assit sur le bord de la table. Ses jambes ne la soutenaient plus. En face d'elle, sur le mur, elle revit se dessiner l'image offerte par les mains d'Anicette. Un cercueil de bois clair, et dans le cercueil, son mari, noir, enveloppé de son drap de lustrine. Sa bouche rose et ses yeux blancs étaient ouverts. Il regardait à travers elle jusqu'au plus profond de la mort. Elle tremblait de peur et de honte, car dans le fond de son cœur, elle sentait naître la joie. Elle refit sa vie en pensée. Elle vendait le bistrot, épousait un jeune homme riche et beau qui l'emmenait à Nice en auto. Elle ne souhaitait pas la mort de son mari, mais on ne sait ni qui vit ni qui meurt. Ce n'était pas un péché d'espérer que le ciel lui rendrait peut-être justice en la laissant survivre à cet homme noir. Elle appela sa fille, déjà presque orpheline, la serra pathétiquement sur son cœur. « Anicette, ma chérie, surtout... ne montre pas tes mains à ton pauvre papa. »
Elle désirait le laisser jusqu'au bout dans son illusion, lui, qui croyait vivre 100 ans.
De ce jour, elle fut aux petits soins pour son mari. Elle lui parlait à voix douce, lui cuisinait des plats sucrés, lui gardait sa choupe au chaud lorsqu'il rentrait tard de livrer. Elle désirait adoucir ses derniers moments, qu'on n'ait rien à lui reprocher.
Elle lui fit rédiger son testament et prendre une assurance sur la vie.
Le docteur, qui ausculta le bougnat, grommela en frottant son oreille noircie. Ah, voilà une assurance qu'on n'est pas prêt de vous payer.
Bien sûr, répondait-elle.
Ses précautions prises, elle se mit à la recherche du beau jeune homme. Elle ne voulait pas perdre le moindre temps. La quarantaine approchait, vous comprenez?
Elle laissait le bistrot à la garde de la femme de ménage et fréquentait les cafés des boulevards.
Elle renouvela son indéfrisable, acheta un corset solide, un chapeau fleuri et un renard qui se mordait la queue dans son décolleté.
Elle fit la connaissance d'un homme très bien,
qui cherchait lui aussi l'âme sœur. Leurs cœurs incompris se devinèrent. C'était un grand blanc d'une 30aine d'années. Il avait le nez un peu rouge, des transes cicatrices sur tout le visage et une jambe de bois.
Il lui raconta qu'un tigre l'avait à moitié dévoré au cours d'une chasse en Birmanie.
Son pilon fit oublier à Madame Chambloux l'image du séducteur langoureux. Elle tremblait d'émotion à l'entendre marcher.
Après 3 mois de glace à la vanille et de cinéma, elle se laissa entraîner dans un hôtel meublé.
C'était à peine de l'adultère, seulement une petite avance. Elle rentra au bistrot, les yeux troubles, avec des rats de pigeons dans la voix. À son amant, elle se disait veuve. Elle attendit de toucher son héritage pour l'épouser. Mais le charbonnier était toujours là. Le boiteux s'impatientait. Il désirait acheter un garage. Avec ton argent et le mien, bien entendu, nous pourrons nous payer une petite affaire de voiture d'occasion. J'ai des copains qui se chargeront de m'amener de la marchandise.
Non, non.
Nous ne travaillerons pas nous-mêmes, ma grosse.
Mais il ne faut pas laisser l'argent infructueux.
Enfin, quand vas-tu le toucher, voyons? Moi, je vais aller lui secouer les puces à ton notaire. Il brandissait sa canne d'un air terrible.
Elle s'inquiéta de la santé de son mari. Tu ne te sens de mal nulle part ?
Lui demandait-elle d'une voix anxieuse. Il répondait non, entre deux bouchées.
Elle mit son espoir dans un accident. Quand il rentrait plus tard que d'habitude, elle supputait son retour sur une civière. Le bruit de la charrette sur les pavés de l'impasse lui enlevait ses illusions. Elle soupirait.
Ce serait peut-être pour demain. Les jours, les semaines et les mois passaient. Le boiteux menaça de la plaquer et lui administra quelques raclées. Elle tremblait qu'il n'apprît la vérité. Le charbonnier continua à bien se porter. Il y mettait plus que de l'entêtement, de la mauvaise volonté. Quand on est condamné, il faut pourtant se décider à débarrasser les gens.
Madame Chambloux reçut de son amant un dernier délai de 8 jours pour liquider son héritage.
Commence à croire que tu t'es payé ma pomme. Tu sais, ça pourrait te coûter cher.
Le soir, elle pleura quand son charbonnier rentra une fois de plus intact et silencieux.
« Mon pauvre André, lui dit-elle en reniflant, je me demande ce que tu attends. Je vais être obligée de t'aider un peu. »
elle lui servit une soupe à la mort aux rats. Il la vomit en long et en large sur son drap noir et repartit le matin d'un bon pied livrer ses boulets. Elle doubla la dose, y ajouta les raclures de verre de gris du robinet de la cuisine. Il mangea de douleur la moitié de son traversin, appela sa mère et tenta de s'ouvrir le ventre avec ses ongles. Il se roulait d'un bord à l'autre de son lit. La sueur et la bave lui lavaient peu à peu le visage, et sa femme épouvantée le retrouvait tel qu'elle avait connu jeune homme, de chair rose, avec des traits d'enfant ingénu. Il avait lacéré sa chemise, déchiré ses draps trempés. La plume blanche du traversin volait autour de lui, se collait à sa peau glaireuse. Il râlait, se cramponnait aux mains de sa femme, la lâchait pour se tordre et tentait d'écraser son ventre contre le matelas. Elle, debout, près du lit, pleurait. Épuisé, il se détendit dans son lit ravagé et commença de gémir doucement. Il s'était mordu les poings. Le long de ses cuisses, ses mains gantées de plumes rouges tremblaient. Ses yeux regardaient un fil d'araignée qui se balançait au plafond dans un courant d'air. Sa femme lui mit la main sous la nuque et lui fit boire un bol de tilleul dans lequel elle avait fondu négligemment 10 boules de naphtaline. Il eut un hoquet, voulut vomir, n'y parvint pas, tourna la tête et mourut. Sa langue enflée lui poussa entre les dents. Elle était verte. Madame Jeanbloux lava le pauvre mort, refit le lit. Ah, ce fut une nuit bien pénible. Elle n'aurait pas eu le courage de recommencer, vous savez. Elle appela pour le certificat de décès le docteur Liché, un vieux paillard ivrogne. Il ne monta pas même voir le corps. Elle l'arrêta dès l'arrière-boutique en lui mettant dans les mains une bouteille et ses nichons. Le bistrot et les économies servirent à l'acquisition d'une longue voiture et d'une jambe en argent. Son pied précieux sur l'accélérateur, le boiteux partit essayer l'auto et ne revint jamais. Madame Jeanbloux perdit ses dents et ses cheveux. Son visage fut envahi de croûtes de même forme que les cicatrices de son amant. Un abcès lui rongea le ventre. Il ne lui restait qu'à goûter à son tour à la mort aux rats. Elle préféra l'eau de la Seine. Elle s'y laissa glisser le soir où tomba son dernier cil. Elle serrait sur son cœur le pilon du disparu. Anicette resta seule au monde. Ce ne fut pas un grand changement. La modiste chez qui sa mère l'avait mise en apprentissage l'adopta par affection et par intérêt. Anicette, en effet, se passionnait pour la fabrication des chapeaux. Elle créa des modèles si ravissants que la crème de l'élégance parisienne accourut chez Madame Mangeon. Anicette travaillait sur le vif. Elle installait la cliente dans un fauteuil, la regardait, souriait, et déjà la cliente se trouvait conquise par le printemps de ses yeux. L'adolescente la coiffait d'une forme brute. Ses mains voltigeaient autour et bâtissaient le nid. Chaque femme lui inspirait un chapeau différent. Ses mains suivaient le fil de son rêve. « Oh, madame, que vous êtes belle! Vous êtes comme une fée au bord de la source. Je vous donne la source. Un ruban d'argent qui coule sur vos épaules, tourne sous votre menton et bouillonne dans vos cheveux, traversé par la baguette de l'enchanteur. » Celle-ci semble vouloir se battre. Elle crispe le front et renifle sa moustache. Plan, rataplan. Un champ de bataille en Panama et 6 soldats de plomb et un drapeau. Madame Mangeon gagnait beaucoup d'argent. Elle n'en donnait point à Anicette qui n'en avait nul besoin. Elle la nourrissait, l'habillait et le soir venait l'embrasser dans son lit blanc. Les nuits d'Anicette n'étaient encore peuplées que d'oiseaux et de fleurs. Le matin, elle se lavait en chantant des chansons nouvelles qu'elle trouvait dans sa tête. Son corps nu ne l'étonnait point. Elle se souvenait à peine de lui avoir connu d'autres formes. Elle se servait peu, très peu de sa mémoire. Elle vivait dans le présent, dans la joie d'exister et de voir, avec des yeux qui ne s'habituent pas, le côté merveilleux des choses familières. Devant la glace, elle coiffait ses cheveux de lin très lisses sur sa tête et s'arrêtait soudain les 2 coups dans l'air pour rire à ses seins mignons qui levaient le nez hors de la chemisette ou un fauteuil bas à long dossier qui ressemblait à la tête d'un lapin. Elle avait presque oublié l'école et l'émerveillement des fillettes. Elle n'avait plus montré à personne le miroir d'eau dans le creux de ses mains. Elle était heureuse. Elle l'avait toujours été. Fernand, le neveu de Madame Mangeon, n'avait plus vu Satan depuis 4 ans. Il vint lui rendre visite avant de partir pour le régiment. Il exerçait avec conscience le métier de plombier zinqueur. Le dimanche, il jouait capitaine dans une équipe de basket. Fernand partit, rêveur, faire son service dans un régiment des Alpes. La vue de la neige lui rappela la jeune fille. Au bout de quelques mois, il obtint une permission. Il avait cessé de caresser en son cœur l'image d'Anicette. Il se souvenait de la soie de ses cheveux, du ciel de ses yeux, de ses joues rondes comme des roses. Il la retrouva plus belle encore. Il n'osa plus lui parler. Devant elle, il mordait le bout de ses doigts et soupirait. À son coucher, elle se rappela la silhouette du soldat et rit. Le lendemain matin, elle y pensait encore. Lui roulait de café en café. Il essayait de noyer dans le vin sa bêtise. Il ne s'était jamais connu timide. À 12 ans, il poursuivait déjà les filles, l'arme au poing. Mais celle-là lui coupait le souffle. Quand il retourna chez sa tante, « Je suis contente que vous soyez venue, » dit Anicette. « J'aime que vous soyez là. Je vous trouve beau. » Il bégaya de bonheur. Il revint tous les soirs jusqu'à la fin de sa permission. Il riait, chantait, cueillait 3 bains de muguet et des herbes folles et des morceaux d'écorce veloutés de mousse. Un jour, ils s'assirent près d'une source pour manger. À la vue de l'eau courante, Anicette se souvint des paroles de l'institutrice. « Oh, Fernand, » dit-elle en riant, « je vais vous montrer l'avenir. » Elle lui tendit l'eau de source dans ses mains. Il ne regarda pas. « Anicette, » dit-il, les dents un peu serrées, « Anicette, ma chérie, notre avenir, je le connais. » Il ouvrit les mains offertes. L'eau roula en perles sur leurs genoux. Le petit cœur d'Anicette se mit à battre, à battre, à battre. Elle n'entendit plus le chant des oiseaux. Ses oreilles bourdonnaient. Elle ne voyait plus les arbres. Ses yeux étaient pleins de l'étrange, du troublant visage de Fernand. Des trous agrandis de ses narines, de son front rouge, de ses yeux durs qui se rapprochaient. Elle poussa un grand soupir et s'allongea sur l'herbe. Quand elle rouvrit les yeux, loin au-dessus d'elle, un dôme de branches se balançait dans le soleil. Le ciel se balançait comme la mer. Elle balança doucement sa tête dans l'oreiller de ses cheveux dénoués. La mer et le ciel se balançaient en elle. « Fernand !» appelait-elle à voix basse. Il la releva. Elle ne retrouvait pas l'équilibre. Il lui semblait qu'une partie de son corps demeurait étendue à terre et que le reste se dispersait avec le vent dans la forêt. Il la serra très fort dans ses bras et dit « Anicette, mon amour !» Le son de la voix de l'homme rassembla tout ce qui d'elle était perdu. Elle se retrouva. Elle le regarda. Il était plus beau qu'un arbre. Il était grave et fort. Elle se sentit fragile. Elle lui raconta l'aventure de son enfance. « Mon amour, dit-il, montre-moi maintenant l'avenir. Je veux savoir si nous aurons une fille aussi belle que toi. » Mais dans l'eau claire, il ne vit que 2 cailloux blancs et un brin d'herbe. Le don merveilleux s'était enfui. Le miroir tremblant renvoyait à la jeune femme l'image de son bien-aimé. Elle murmura, « Tu vois, voilà le miracle. »
C'était Bonne Nouvelle, grand comédien de Patrice Galbeau. Jean Le Poulain lisait Les mains d'Anicette de René Barjavel. Réalisation Arlette Dave, première diffusion sur France Culture le 24 juillet 1970. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.